France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Sophie Janin. Je suis née le 6 septembre 1976 à Österåker en Suède et je suis chef de chœur.
On se rencontre au mois de novembre, il y a décembre qui est pas loin, le 13 décembre, et cette fameuse Santa Lucia qui est un moment tellement nordique, scandinave, suédois. Cette fête-là de la lumière de la Sainte Lucie, vous en avez des souvenirs, petites, des parfums, vous avez été élue Sainte Lucie, parce que je crois que c'est quelque chose qui existe si on élit une jeune fille
ou... Moi, j'ai tellement de souvenirs de Sainte Lucie parce que ça nous accompagne toute la vie. Moi, étant petite, on avait déjà des processions à la maison. Comme ma mère était nounou, on avait tout le cast, présent. Et parce qu'il y a, voilà, il y a la Sainte Lucie, il y a les petits anges qui l'accompagnent, il y a les petits lutins en rouge, il y a les petits gâteaux de gingembre. En fait, c'est un déguisement en marron. Ce qui était d'ailleurs toujours la tenue de prédilection de ma sœur. Il y a aussi les garçons avec des chapeaux en cône sur la tête et qui tiennent un petit bâton avec une étoile dessus qui incarne les trois mages. Et il y a de la musique qui accompagne ces processions. Il y a les gâteaux, il y a le vin chaud ou le chocolat chaud. Et dans les maisons suédoises, les enfants font aussi des processions pour leurs parents. Donc c'est un matin où on se lève le 13 décembre et on surprend nos parents toujours avec un petit déjeuner au lit en chantant des chansons. Donc c'est vrai que je faisais ce genre de choses et je m'investissais énormément dans les réalisations de chaque Sainte Lucie. Et puis après, à l'école, et puis plus tard, quand j'ai commencé quand même à chanter aussi, les processions de Sainte Lucie devenaient différentes. Après mon bac, j'en ai même organisé un pour... La famille princière à Monaco. Je me souviens que j'avais fondé un chœur que de filles au père suédoises. Je crois qu'on était 25 ou quelque chose comme ça et on était allés chanter. La seule fois où j'avais été élue Sainte Lucie, parce que c'est normalement quand même un concours de beauté, mais dans mon cas, la seule fois où j'avais été élue Sainte Lucie, c'était parce qu'il fallait une Sainte Lucie qui chante. Il y avait un solo important à avoir dans une église un jour. Je me souviens que c'était assez inconfortable de chanter avec la cire qui coule parce qu'on a une couronne de bougies sur la tête quand même, donc il faut rester stoïque, mais une fois qu'on a fait ça, le reste devient facile.
Il y a une autre fête, je crois, qui est assez importante, Sophie Janin, c'est aussi Pâques. Alors là, il y a plutôt un peu des branches de bouleau, les œufs peints, etc. Et puis, il y a quelque chose plus de l'ordre de la sorcellerie, un peu, non ?
Ah oui, oui. Alors, nous, on a quand même des fêtes dans l'année qui marient toujours religion avec tradition païenne. Donc, déjà, Sainte Lucie, c'est quand même assez bizarre qu'on fête cette sainte sicilienne chez nous en Scandinavie. À Noël, pareil, on a plein de traditions qui n'ont rien à voir avec l'enfance du Christ, mais qui sont très très importantes pour les Suédois. À Pâques, c'est le jeudi saint. Tous les enfants se déguisent en sorcières et en sorciers. On fait du porte-à-porte chez les gens, pas pour les menacer de faire des malices comme à Halloween aujourd'hui dans beaucoup de pays, mais pour donner des cadeaux, des présents de printemps. Et parce qu'il y a la légende dit que toutes les sorcières voyagent jusqu'à une colline, Blåkulla, juste avant Pâques pour rencontrer le diable. Donc voilà, nous on fait ça par superstition, comme dans énormément de traditions.
Votre sœur, elle aussi, elle avait cet appétit-là pour les fêtes. Elle était plutôt pour chanter à la Sainte-Lucie ou pour faire des choses de sorcellerie.
Ah oui, avec ma sœur, les fêtes suédoises prennent encore aujourd'hui toute une dimension incroyable. Déjà parce que Lisa a un sens créatif sans aucune limite, mais elle avait aussi un sens de la mise en scène et du cadre esthétique. Donc déjà, nos déguisements étaient incroyables, je dois dire, quand on était petite, même au quotidien, parce que les déguisements, c'était omniprésent chez nous. Et des choses très étonnantes. Mais c'est vrai qu'à Pâques, ça prenait une dimension extraordinaire. Mais même les fleurs qu'on cueille pour la Saint-Jean aussi, toute la tradition qui va autour. Ma sœur était extrêmement passionnée par les rites. Et aujourd'hui, en dehors de ses peintures et ses sculptures, elle est alchimiste. Et je crois que ce rituel chez elle, qui est très important dans l'alchimie, elle a toujours eu.
Elle fait des potions?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle fait comme potion?
Elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Elle fait des extraits essentiels de beaucoup d'herbes et d'épices. Mais elle concocte des potions pour différentes choses, pour avoir des rêves vifs, pour avoir le calme, pour arrêter de fumer. Je me souviens, j'avais un ami il y a 3-4 ans qui avait beaucoup d'angoisse et une perte de confiance, et elle avait concocté un mélange pour lui qui aidait la personne à pouvoir être intègre et dire ce qu'il avait sur le cœur avec confiance. Ça, j'avais trouvé assez extraordinaire. Donc elle est assez magicienne, ma sœur. Le mystique est extrêmement présent chez nous dans le Nord. Et c'est vrai que nos berceuses, nos chansons, nos comptines pour les enfants, tout comme nos expressions courantes, contiennent très très souvent des éléments de la mythologie ou du fantastique. Nous, on était extrêmement investis là-dedans quand on était petite. Bien évidemment, on adorait la mythologie grecque et notre grand-père nous passionnait aussi pour ça, avec des histoires très vivantes. Mais avec ma sœur, on était aussi très très inspiré par la mythologie nordique. On avait même créé une pièce vivante dans notre école primaire, et c'était incroyable parce que on faisait une pièce vivante où on imaginait Yggdrasil et tous les animaux et les dieux et les demi-dieux et les trois femmes qui décident de la longueur de la vie, etc. Mais on avait fait une procession dans la ville, tous les enfants de l'école primaire avec cette pièce, et j'ai réalisé il y a seulement 3-4 ans que c'était ma sœur qui avait eu l'idée et qui avait écrit le scénario où elle avait engagé quand même toute l'école. C'était incroyable.
Vous lisiez les Moumines, par exemple?
Oh oui, absolument. Et je suis encore aujourd'hui très, très touchée par les textes et les images de Tove Jansson. Là-dedans, il y a une mélancolie qui est bien évidemment plus à l'est encore que la Suède. Cette menace imminente de la catastrophe qui va venir, qui met la mère Moumine dans tous ses états. Le papa qui rêve de ses mémoires et adore être en mer, qui ressemblait quand même beaucoup à notre papa, à nous. Et puis, les enfants sans souci. C'est, c'est-à-dire les enfants protégés dans un monde plein d'inventions, plein de... On a une tradition chez nous où on lit le Noël des Moumines à voix haute chaque Noël, parce que ça nous fait encore sourire. Et les enfants qui viennent se rajouter à notre famille vont aussi grandir avec cette tradition. Et j'aime aussi la littérature pour adultes de Tove Jansson. Et il y a même des textes de chansons qu'elle a fait qui sont extrêmement, extrêmement puissants.
Nu blåser storm där ute och stänga sommarns dörr. Det är för sent för att undra och leta. Jag älskar kanske mindre än vad jag gjorde förr, men mer än du någonsin får veta. Nu ser vi alla fyra kring höstens långa kust och hör vågorna vilsamma vandra. En enda sak är viktig och det är hjärtats lust och att få vara samman med varandra. Skynda dig, älska dig, skynda att älska. Dagarna vandrar minut för minut, men våra ljus, det är nära till natten. Snart är den kommande som tar slut.
Les grands entretiens de Sophie Janin, France Musique.
Est-ce qu'il y a chez vous, comme je crois, c'était assez banal, en Suède, un piano à la maison ?
C'est extrêmement commun en Suède. Les pianos se donnent encore. Si on peut trouver un moyen de déplacer un piano, on peut trouver un piano gratuitement en Suède. On avait un piano assez rapidement à la maison parce que je crois que nos parents ont vu qu'avec ma sœur, on chantait beaucoup, beaucoup et qu'il fallait... Il fallait quand même un clavier au bout d'un moment. Et je passais énormément de temps dessus. Avec ma sœur aussi. Et donc toutes les deux.
À quatre mains?
À quatre mains et à toutes sortes. Et ma sœur avait inventé un système pour lire la musique qui était à elle, avec des codes couleurs qu'elle a mis avec des petits bouts de scotch sur les touches de piano et dans des partitions. Ma sœur est dyslexique. Et en même temps, on avait cette idée, un jeu chez nous, c'était d'entendre un générique à la télévision et de courir au piano et de refaire le générique. Donc on était beaucoup dans le mimétisme aussi. Donc pas seulement dans la lecture, mais beaucoup dans le jeu et de l'invention aussi.
Et la musique, elle est de toute façon très présente, en tout cas dans cette fin des années 70, début des années 80. Elle est encore très présente même à l'école.
Très, très présente à l'école. On chantait tous les matins avant de démarrer les classes. Dans chaque salle de classe, il y avait un piano droit aussi. Et les instituteurs jouaient au piano pour accompagner des petites chansons. On avait une chanson qui accompagnait probablement chaque instant de la journée, quand c'était le moment de manger, quand c'était merci pour aujourd'hui, au revoir et à demain. On chantait aussi dans la voiture, on chantait à la maison. En Suède, c'est vrai que le chant était omniprésent.
Il est souvent quand même très présent quand aussi l'Église et l'État ne sont pas séparés.
C'est exactement ça. Les fêtes de fin d'année se faisaient à l'Église. C'est d'ailleurs débattu un peu aujourd'hui aussi, je crois. Est-ce que l'Église est un lieu de culture aussi ou est-ce que c'est un lieu seulement pour le culte ? C'est un débat qui aujourd'hui anime pas mal de discussions. Si on veut trouver un pays avec une tradition chorale forte, il y a toujours... une ou deux raisons présentes, c'est-à-dire que soit c'est un pays qui a une tradition religieuse importante, soit une tradition populaire importante ou folklorique, on va dire. Et en Suède, c'est vrai qu'on a les deux, on a ces deux raisons-là, c'est-à-dire qu'on est on avait cette proximité avec l'Église luthérienne, mais aussi des traditions populaires extrêmement importantes. Et en plus de ça, on est un tout petit pays, et je crois que comme beaucoup de petits pays, on a toujours cette idée de faire perdurer un héritage. Et pour ça, on chante aussi beaucoup. C'est pour comme si on devait affirmer notre existence, en quelque sorte.
Thank you.
Les vacances, elles se passaient où, Sophie Janin?
Les vacances se passaient sur la côte ouest suédoise, dans un petit chalet que mes grands-parents avaient trouvé dans les années 50. Et un chalet qu'on a encore aujourd'hui, qu'on partage en famille. Donc on partait les étés là-bas, tous en famille, et on vivait très très simplement, dehors. On n'a jamais eu l'eau dans cette maison et on adorait cette vie pieds nus pendant tout l'été au bord de la mer.
Ce contact avec la nature, vous allez l'avoir de façon plus forte lorsque, comme vous nous le disiez, au divorce de vos parents, vous partez plus loin de la ville, je crois.
Plus loin de la ville, mais en même temps, même si je voyais la ville étant petite, on habitait quand même en bord de mer au début de l'archipel de Stockholm et on avait un voilier que mon père avait construit. Donc j'ai toujours été en mer quand j'étais petite et j'ai grandi sur ce bateau qui existe encore aujourd'hui. On le partage aujourd'hui avec mon père. C'est vrai qu'on avait toujours cette notion de vivre dehors. Une fois qu'on avait déménagé en campagne avec ma mère, j'avais déjà ça, je crois. Ma mère, elle était très sportive pour les sports d'hiver et d'été aussi d'ailleurs, donc de partir faire du ski de fond, de faire du patin à glace avec les longues lames sur les lacs et sur les rivières gelées, de nager dans les lacs, dans les rivières, dans la mer. Ma mère, elle nage encore jusqu'au mois de novembre chaque année. Et je l'ai déjà vue prendre une pierre et faire craquer la glace sur les lacs pour sauter dedans. Et pas après un sauna, elle y va comme ça. Elle descend jusqu'à 5 degrés sans problème. Ma grand-mère aussi. Et mon oncle, ma tante, tout le monde. Moi, je suis un petit peu plus frileuse peut-être, mais j'ai déjà aussi profité quand même de ce genre de baignade au mois de décembre ou en janvier. Je trouve ça chouette. J'ai eu la chance de grandir dans un pays où on fait encore ce genre de choses. Et la forêt a toujours été importante pour ma mère parce qu'elle s'y repère très naturellement. Pour aller cueillir des champignons, moi je m'arrête aux girolles, chanterelles, des trompettes de la mort. Enfin, j'ai peut-être 4 ou 5 champignons que j'ose cueillir sans regarder dans un livre. Ma mère, elle, sans compas, sans rien, elle peut être parachutée dans un forêt. Elle va pouvoir survivre sans aucun problème. Elle connaît chaque baie, chaque plante, chaque champignon, chaque animal. Et c'était pour elle, je pense, très chouette de pouvoir vivre si proche de la nature.
Vous avez donc 8 ans, votre sœur, elle en a 12 à peu près, c'est pas si facile de déménager, c'est aussi les moments où on se coupe, en tout cas d'une certaine vie.
Oui.
Et doublement, parce que vous vous coupez aussi d'une vie familiale.
Oui, je crois que c'était plutôt ça qui était la grande rupture, c'était de pas avoir nos deux parents au même endroit. C'était bien évidemment bouleversant parce que son univers est petit quand on est enfant. Et cet univers-là, quand il explose, ben ça change tout. Mais ma sœur a d'abord emménagé avec ma mère. Moi, dans un premier temps, je suis restée avec mon père. Quand mon père a déménagé en Amérique, ma sœur est partie avec lui et moi, je suis partie chez ma mère. Donc finalement, j'étais d'abord séparée de ma sœur aussi. Finalement, on s'est retrouvés toutes seules, ma mère et moi, quand j'avais 11 ans et pendant 7-8 ans... juste toutes les deux. Et c'était bouleversant parce que on arrivait avec nos accents de Stockholm dans une ville où on n'aime pas les gens de Stockholm. Donc là, pareil, je me souviens, j'avais, je crois, passé une journée à l'école. Je suis rentrée, je parlais avec un accent de cette région où on venait de débarquer. Et ma mère, je voyais bien qu'elle essayait de pas rire pour pas m'embarrasser, mais je voyais bien que c'était comique pour elle. Et bon, après, j'ai laissé tomber quand même parce que je veux bien me glisser dans n'importe quel contexte social, mais je peux pas non plus trahir ma langue à moi. Et donc, j'ai finalement accepté d'avoir cet accent. Non, c'est l'idée d'arriver dans un endroit, de se faire accepter, de faire des amis. Et dans une ville où finalement, arriver de Stockholm, déjà, ça peut être offensif pour les gens, mais en plus, d'être passionné par la musique classique, de jouer au piano, de pas m'intéresser à la chasse, de pas m'intéresser au hockey sur glace ou handball, chaque ville a ses spécialités. Dans cette ville-là, il se trouvait que le handball, le hockey sur glace, c'était extrêmement important pour les jeunes, et moi, j'en avais vraiment rien à faire de ça. Je jouais au foot. Quand même, comme beaucoup de filles suédoises et beaucoup de garçons suédois. J'ai continué pendant un petit moment, mais j'ai un peu perdu l'envie à 13-14 ans. Les filles sont devenues très, très costauds et je commençais à avoir un peu peur sur le terrain. Mais je faisais beaucoup de danse et ça, j'avais déjà fait à Stockholm et j'ai continué. Et ça m'a bien accompagnée pendant toute ma scolarité, comme la musique. Et j'avais de la chance de rencontrer, dès mon arrivée dans ce nouvel endroit, Lindesberg, un professeur de piano qui était, lui, de Hongrie, qui était venu comme réfugié. Enfin, il avait quitté le régime communiste en Hongrie et qui était absolument passionné de Liszt et Chopin pour des raisons naturelles, mais qui m'a tout de suite pris sous son aile et qui m'a beaucoup inspirée pendant mon enfance. Je voulais jouer comme lui. Je voulais entrer dans la classe de violoncelle, elle était pleine, j'ai pas eu de place, donc c'était cette époque formidable où on pouvait aller à l'école municipale de musique sans payer des frais d'inscription, sans payer un instrument parce qu'on nous le prêtait si on avait une situation financière précaire, ce qui était notre cas avec ma mère. Du coup, comme la classe était pleine, on m'a mis dans une classe de saxophone, donc on m'avait donné un saxophone alto. L'alto est pourtant pas grand, mais comme moi j'étais minuscule, on aurait dit les Simpsons, vous savez, il y a la fille qui joue au saxophone, qui a un saxophone énorme. Je ressemblais à ça, je crois. C'était pas évident. J'ai abandonné au bout d'un an. Mais ça m'enchantait parce que je voulais apprendre à jouer comme mon père avait joué beaucoup le saxophone dans sa jeunesse. J'avais envie de voir ce que c'était.
Mm-hmm. Un extrait d'In Milotone par le Arne Domnerus Quartet pour refermer le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Sophie Jeannin. Réalisation Gilles Blanchard. Prise de son Yves Lehorse, mixage Romain Lenoir, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.